À voix nue, Caroline Brouet.
Robert Bobert.
Tailleur, éducateur, potier, cinéaste, écrivain.
Deuxième épisode, tailleur, potier, éducateur. Bonjour Robert Bobert.
Bonjour.
Nous allons parler pour ce deuxième épisode de l'après-guerre, du tout de suite après-guerre même, puisqu'on en est resté à la fin de ce premier épisode hier sur le certificat d'études primaires que vous avez obtenu quand vous avez quitté l'école à l'âge de 15 ans et le premier métier que vous avez exercé, qui est le métier de tailleur. Comment vous êtes-vous retrouvé tailleur? Je crois que c'était chez David Greenspan, premier employé.
Oui, oui, oui. En fait, dans le 13e arrondissement, qui est un arrondissement populaire, 8 enfants sur 10 arrêtaient l'école. Et en plus, mes parents, c'est après la guerre, la boutique dans laquelle ils travaillaient, beaucoup de machines avaient disparu, c'était, voilà, ils n'ont rien retrouvé. Et on n'avait pas les moyens de faire poursuivre les études. Et d'ailleurs, beaucoup de gens de ma génération ont fait ce métier. En Pologne, il n'était pas question que les Juifs travaillent en usine, dans des endroits où il y a plein de monde. Il fallait donc faire un travail qu'on ne pouvait faire que chez soi. Et être tailleur, ça se fait chez soi. Voilà. Et donc, on a fait ce métier un peu partout. Des gens comme Charles Denner étaient tailleurs, Jean-Claude Grimbert était tailleur, Samy Frey a commencé à apprendre le métier de tailleur, Serge Lasque, notre jeune des tableaux, qui est devenu peintre, était tailleur. Voilà, donc un tas de copains étaient ailleurs, et il fallait bien travailler. Au début, on n'était pas payé, mais j'avais un patron très gentil, qui à la fin de la semaine, parce que là, je faisais rien, j'apprenais à tirer l'aiguille, à prendre la trame d'un tissu sans que ça se voie de l'autre côté. Et à la fin de la semaine, il m'a donné un petit peu d'argent, et pour la première fois, je n'ai pas eu à demander de l'argent à mes parents pour aller au cinéma. Il m'en restait même assez pour acheter une glace à l'entracte. Voilà. J'étais très fier. Et après, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, puis c'était une famille où l'argent gagné était mis en commun. Maintenant, quand les enfants travaillent, ils gardent l'argent pour eux. À l'époque, ça ne se faisait pas. Et moi, j'étais très fier de contribuer. Pas à nourrir, c'est beaucoup dire, mais voilà, dès que j'ai gagné un petit peu d'argent, mes parents me donnaient de l'argent pour... je fumais pas, donc c'était pour aller à la piscine ou pour aller au cinéma, voilà. Et donc j'ai appris le métier de tailleur. Et comme j'étais un très bon tailleur, quand plus tard, il m'a dit, la coupe, ça s'apprend une fois qu'on sait comment assembler un vêtement, et pour hommes, pour femmes, etc. À l'époque, c'était doublé avec de la toile, etc. Et ce qui fait que lorsque j'ai appris plus tard à apprendre la coupe, je suis sorti premier de l'école de coupe, avec une mention très bien. Voilà, c'est un examen, je suis très très fier.
C'était un tailleur pour dames, ou pour hommes, ou pour les deux?
Alors pour hommes sur mesure, à l'époque la confection c'était de confection de qualité. Mais comme je travaillais beaucoup à la main, voilà. Donc c'était surtout pour hommes que je travaillais. Puis après, j'ai gagné ma vie comme mécanicien et coupeur pour dames.
Dans votre premier livre, Robert Bobert, Quoi de neuf sur la guerre, vous mettez en scène les différents corps de métier dans un atelier de confection pour dames, rue de Turenne à Paris. Alors l'atelier de David Greenspan, il était pas rue de Turenne, je crois qu'il était rue Maître Albert, à Paris 5e arrondissement. Mais je suppose que ce livre a été écrit à partir de vos souvenirs, essentiellement.
Mais un point que je ne savais pas. Parce que quand ce livre a été présenté, bon, il y a toujours des rencontres ici et là autour d'un livre. Et il y a une dame qui me dit, je ne savais pas que vous aviez travaillé chez mon père. Alors je lui dis, ben moi non plus, je ne savais pas. Et les gens reconnaissaient tellement les ateliers, ce qui se passait. Il se trouve que le personnage principal, enfin le patron s'appelle, son prénom c'est Albert, on l'appelait Monsieur Albert, et rue de Turenne. Or, il se trouve, il y avait un Albert rue de Turenne, et les gens ont dit, t'as vu, on parle de toi dans un bouquin. Voilà. Et donc, on se reconnaissait, et ils ont eu le même sentiment avec l'atelier de Grimbert, qui est une pièce de théâtre, où les enfants de tailleurs nous disaient, on avait l'impression que vous étiez cachés derrière la table de presse et que vous preniez des notes à l'époque. On n'avait pas besoin de prendre de notes, c'était tellement d'autres vies.
Il n'empêche que vous aviez un cahier de coupe, vous.
Ah oui, oui, j'avais un cahier de coupe.
Vous écriviez quand même.
On était à la radio, je ne vais pas le montrer.
Ah ben vous pouvez nous le décrire.
Voilà, non. Alors, petite parenthèse, ce livre a été adapté par Michel Deville au cinéma.
Quoi de neuf sur la guerre ?
Quoi de neuf sur la guerre.
Qui date de 1993.
La première partie seulement. Et puis, il a dit, si ça vous fait plaisir, et comme il y a plusieurs organisations juives, on peut faire une projection pour eux dans une salle. Voilà. Donc, il y avait une salle de 300-400 personnes, et avec des questions, voilà. Et puis, au fond de la salle, il y a une personne qui me dit, pourquoi vous avez écrit Quando sera hier, alors qu'il y avait déjà l'atelier de Jean-Claude Grimbert? Alors je lui ai dit à cette dame, j'ai dit, bah écoutez, c'est une question à laquelle je répondrai à la fin. Donc il y a eu plusieurs questions, des réponses. J'ai dit, maintenant je vais répondre à votre question par une autre question. Quels sont ceux dans la salle qui ont été, ou surtout dont les parents étaient ailleurs? Les trois quarts de la salle a levé la main. Et au premier rang, comme ils ne voyaient pas derrière, ils se sont retournés. Quand ils ont vu ça, il y a eu un éclat de rire général. Je dis, voilà la réponse, c'est vous rire.
Ce travail de tailleur, Robert Bobert, il a été fondamental, non seulement parce que ça a été le premier, et que vous en êtes très fier, on l'entend encore, mais aussi parce que vous avez gravi tous les échelons. D'ailleurs, on le voit dans Quoi de neuf sur la guerre, on apprend aussi beaucoup de choses sur le métier lui-même, comment vous travaillez, mais aussi sur le fait que on est d'abord sous-mécanicien, puis mécanicien, et puis on est modéliste, enfin, on passe un certain nombre d'échelons. Métier, et c'est ce que vous avez fait.
L'écriture, puisqu'elle est venue comme ça, je peux raconter comment je suis venu à l'écriture. C'est que, comme je faisais des films pour lesquels de temps en temps j'écrivais un texte qui accompagnait donc les images, j'ai bien un jour une idée comme ça, une idée de nouvelle. Et j'en parle à Perec. Et je lui dis, tu sais, j'ai une idée de nouvelle. Et je vais pour lui raconter. Il dit, tu ne me la racontes pas, tu l'écris. Je lui dis, comment ça, je l'écris? J'ai dit, je te la raconte. Il dit, non, tu l'écris. Je lui dis, mais je ne suis pas écrivain. Il dit, écoute, j'ai vu tes films et je suis sûr que tu pourras l'écrire. Et j'ai cru que c'était un signe d'amitié qui me faisait plaisir. Et je n'ai pas écrit. J'ai attendu deux ans avant de me débarrasser de cette nouvelle qui faisait 8 pages. Et j'ai mis ça dans un tiroir, comme souvent on oublie tout ce qui est dans les tiroirs, et 2 ans après, en rangeant mes papiers, je tombe dessus, et le temps a fait que j'ai lu ça comme si ça avait été écrit par quelqu'un d'autre. Je me dis, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Et la seule personne que je connaissais, alors je me dis, si je montre ça à Dumeuillet, que je connaissais bien, il va me dire, bon, c'est bien, tout ça, donc c'est le copain qui va parler. Et je connaissais un petit peu Paul Jacobski-Laurence, qui était l'éditeur, que j'ai connu par Perec. Et je lui dis, voilà, j'ai écrit un petit truc comme ça, c'est juste pour savoir si c'est bien ou pas. Et c'est là qu'il me téléphone le lendemain, il me dit, je veux la suite. Ce que je ne comprenais pas, c'est comment lui savait qu'il y avait une suite, alors que moi je ne le savais pas. Et ces 8 premières pages, c'est le premier chapitre de Quoi de neuf sur la guerre. Voilà. Et après, il n'y a eu plus qu'à suivre dans les souvenirs.
Un livre, on apprend donc beaucoup de choses du métier, puisqu'on vous voit tout de suite installé à la machine, une Singer 31K15.
Oui.
Puis gravir tous les échelons de ce métier de tailleur. Vous évoquiez, Robert Bobert, le cahier de coupe que j'espère donc pouvoir voir. Vous avez aussi gardé des outils, les ciseaux, les dés. Vous avez encore les dés?
Oui, je les dés, ça m'amuse à prendre les dés. Parce que le dé, c'est vraiment un compagnon qu'on oublie. Et à l'époque, je rentrais chez moi en autobus. Alors c'était l'autobus où, avec les plateformes arrière, où on donnait les tickets au contrôleur avec sa petite machine accrochée. Voilà. Et plusieurs fois, il m'est arrivé d'autant de mes tickets de m'apercevoir qu'il y avait toujours...
Vous aviez encore le dé
à court au bout du majeur. Voilà, donc c'est vraiment un compagnon.
Et ils sont où, là, vos dés?
Ils sont au milieu des objets.
Je crois que j'en vois un sur une étagère à côté d'une miniature de machine à coudre.
Il y a les dés. Je me souviens quand Jean-Claude Grimbert il m'avait invité à l'avant-première de l'atelier. Alors, en tant que copain, en tant qu'ancien tailleur, tout ça. Et j'étais tout seul dans la salle. Et puis à la fin, il me dit, alors, c'était comment? Alors je lui dis, c'était formidable, mais il y a un truc qui m'a gêné. Il me dit, c'est quoi? Je dis, c'est qu'on te voit coudre et que tu n'as pas de dé à ton doigt. Il me dit, mais j'embêtais au début de la répétition, mais en jouant, elle se cassait toujours la gueule, j'ai décidé de plus mettre de dé. Voilà. C'est donc que le dé, c'est un compagnon. On vit avec.
Est-ce que vous montreriez quelques dés que vous avez gardés? Ils sont dans le bureau, vos dés, là.
Oui, par jeu, comme ça, j'en ai gardé. C'est dans le tiroir.
Ah, c'est dans un tiroir, juste
de
à côté
bureau,
de vous.
Voilà.
Une petite boîte.
J'ai une boîte comme ça.
Elle est rafistolée, votre boîte, dites-donc, elle a plein de scotch.
Quand j'en vois un, j'achète. Voilà.
Ah oui.
Une douzaine de dés.
Oh,
de femmes, des d'hommes. Combien il y en a?
Qu'est-ce que c'est que ça, des femmes et des d'hommes?
8, 9, 10. Voilà, il y en a 11 là. Voilà. Alors, le dé d'homme, c'est un dé qui est percé au bout parce qu'on pousse avec la première phalange, l'aiguille, et les dés de femmes, on pousse avec la pointe. Et je ne sais pas pourquoi.
Vous savez que j'allais vous demander pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi. Et tout le monde me demande pourquoi. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi. Et mon patron m'a dit, on a toujours fait comme ça, parce que les femmes, les finisseuses, le travail qu'elles font sont des aiguilles qui n'ont pas la même longueur que les dés d'hommes, qui font plutôt les boutonnières, des choses comme ça. Voilà. Bon, c'était une explication. Mais
Et de temps en temps, vous sortez la boîte à dés de couture et vous vous amusez à les mettre à votre doigt?
Non,
les gardez.
Mais je m'amuse beaucoup à les montrer.
Il y a des objets aussi qui sont dans votre bureau, mais qui sont des objets. Alors, je ne sais pas, là, j'en cherche un peu autour de moi, mais des objets de poterie. Je cherche des objets de poterie que vous auriez pu faire, vous, parce que je crois que vous avez aussi été potier. Ah oui, celui-là, ça, donc un pot à crayon.
Ça, voilà.
Un pot à crayon, ça, des loupes.
Trois, ça.
Et puis un soliflore, ça c'est vous qui les avez fait.
Oui, un tas de choses, l'assiette qu'il y a là.
Donc vous étiez tailleur la semaine et potier le week-end, Robert Bobert.
Alors, non, chronologiquement, même si je ne raconte pas mes souvenirs de manière chronologique, la première année où j'étais moniteur de colonie de vacances, c'était la même organisation où j'avais été enfant, colon. Colon, c'est quelqu'un qui est en colonie de vacances, c'est pas quelqu'un qui... voilà. Donc, il y a une année où j'étais trop vieux pour être colon, et trop jeune pour être moniteur. Et après, quand j'étais moniteur, la première année, en 51, les enfants qui avaient autour de moi, enfin dont je m'occupais, la moitié au moins, n'avaient plus leurs parents. Les parents avaient été déportés. Et je me suis attaché à eux. Voilà. On a beau se dire, il faut pas faire de différence, etc. On peut se dire tout ce qu'on raconte. Il n'empêche que quand on parle à un enfant qui ne reçoit jamais de courrier, par exemple, on ne réagit pas de la même manière. Et à la fin du mois, et parce qu'il y avait 2 mois de colis de vacances, je me suis dit, je vais pas rentrer. Et j'ai envoyé un mot à mon patron. J'ai dit, je reste un mois de plus. Alors, ce patron-là était gentil, il m'a repris, voilà, c'était le premier. Et j'ai fait un deuxième mois de colonie de vacances, et je me suis dit, je crois que j'ai envie d'être éducateur, mais pas éducateur à garder, à faire jouer les enfants. Si c'est toute l'année, il faut faire d'autres choses. Et il y avait un centre dans la vallée de Chevreuse, où on apprenait les travaux manuels, la reliure, la poterie, la vannerie, la gainerie, les marionnettes. Voilà. Donc pendant 2 ans, j'ai passé tous mes week-ends à aller là et à apprendre. Jusqu'au jour, donc je ne savais pas encore qu'est-ce qu'il y aurait au bout. Et un jour, il y a un psychiatre qui est venu, le docteur Casalis, et qui a dit, voilà, je suis psychiatre, il a dit ça au directeur du centre, et il dit, il y a un moment entre celui où les malades n'ont plus besoin d'être à l'hôpital, mais ils ne peuvent pas encore avoir une vie dite normale. Il faut qu'il y ait un entre-deux. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y ait, si vous avez quelqu'un qui sait faire la poterie, tous ces malades, au lieu de rester à l'hôpital, sortiraient de chez eux, mais pour aller quelque part, non pas pour gagner leur vie, mais pour faire un travail. Et il a dit, là, je pense que la poterie, ça serait bien. Et le directeur a dit, ben, j'ai la personne qu'il vous faut, il se trouve que cette personne, c'était moi. Et pendant 2 ans, je me suis occupé donc de ce qu'on appelle les malades mentaux. Ce qui est curieux, c'est que j'ai reçu le courrier d'une dame qui m'a envoyé une lettre et qui me dit que ce même docteur avait soigné sa mère. Voilà. Et donc j'ai fait ce travail pendant 2 ans. Et puis en même temps, je faisais des objets pour moi que je vendais dans un magasin qui faisait des objets dits d'art. Et voilà, donc on en est au troisième métier.
Vous aimiez cette période ?
Oui.
Vous avez gardé des bons souvenirs ?
J'ai aimé.
C'est ce que vous écrivez, en tout cas, il y a quand même dans la rue des gens qui passent.
Oui, j'ai aimé toutes ces périodes. J'aime bien les métiers qu'on apprend en les faisant. Et pas qu'on étudie d'abord et qu'on fait ensuite. Voilà.
Je m'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que c'était l'inverse.
Oui. À l'école de coupe, il y avait des gens qui étaient là, qui apprenaient à couper, mais qui ne savaient pas comment on assemblait les vêtements. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais de toute façon, c'était des mauvais coupeurs parce qu'ils ne savaient pas à quoi ça servait. Et donc, il faut d'abord faire le métier, il faut apprendre.
Apprendre en faisant.
Être apprenti, c'est très très bien. Savoir qu'on gagne de l'argent, qu'on gagne sa vie en faisant ce métier petit à petit, qu'on gagne plus quand on devient patron. J'ai jamais été patron. C'est pourquoi j'ai aimé tous ces métiers que j'ai faits, parce que je les ai appris dans l'ordre.
À chaque fois, Robert Bobert, vous avez continué après ? Est-ce que vous avez continué à faire des costumes après avoir quitté le métier de tailleur ? Est-ce que vous avez continué à faire de la poterie après avoir quitté le métier, en tout cas la fonction ?
Il y avait un atelier à Paris où je faisais de la poterie de temps en temps. Et puis, il est arrivé l'âge où je devais faire mon service militaire. Tardivement, puisque je n'étais pas français.
Je rappelle que vous étiez...
Réfugié provenant d'Allemagne, apatride d'origine polonaise.
Parce que c'est le titre d'un film, voilà. Mais il se trouve que c'était ce qui était écrit sur votre carte d'identité jusqu'à l'âge de 24 ans.
C'est ça, voilà. Et à ce moment-là, j'ai été naturalisé au moment de la guerre d'Algérie, mais au bout de quelques mois, j'ai réussi à me faire réformer parce qu'il n'était pas question que j'aille en Algérie. À ce moment-là, il n'y avait pas de... Ou bien on passait de l'autre côté, mais... On tirait sur les copains qui faisaient les militaires, il n'était pas question que je fasse ça, mais il n'était pas non plus question que j'aille faire la guerre aux Algériens. Donc je me suis fait réformer.
Robert Bobert, sur le travail d'éducateur que vous avez fait pendant plusieurs années, moniteur donc de colonies de vacances puis éducateur, vous disiez tout à l'heure que vous vous étiez attaché nécessairement à certains des enfants qui, dans l'ensemble, avaient 10-11 ans, en tous les
oui,
cas dans les
ce,
premiers.
Ceux dont je m'occupais, ceux dont je m'occupais avaient 11 ans, et puis et le mois suivant, c'était avec les plus grands, ceux qui avaient 13 ans.
C'est ça.
13-14 ans. Et j'aimais bien parce que c'est... voilà, je n'étais pas le moniteur qui disait on fait ceci, on fait cela. Tout se faisait en dialogue. Quand on allait À la plage, par exemple, on n'y allait pas au pas, on se baladait, on cueillait des mûres en passant, parce qu'il y avait des mûriers, et on bavardait avec les uns, avec les autres, on sentait ceux qui avaient des problèmes, donc on marchait à côté, on discutait, et c'est ce que les enfants avaient besoin, finalement. Et moi aussi, j'avais besoin de ça, de cette relation.
Il y en a deux qui ressortent parmi les dizaines que vous avez côtoyées. Il y en a un qui est dans le film Génération d'après, le petit Marcel. Et puis il y en a un qui est dans Quoi de neuf sur la guerre.
Le film est dédié à Marcel, mais il n'est pas dedans, puisque dans le film, il y a ces cinq femmes.
Non, pardon, il n'est pas dedans, en parle.
Voilà. Oui.
Il est question de Marcel, évidemment. Et j'aimerais bien que vous nous parliez de Marcel. Et le deuxième, c'est Zozo, alias Joseph, dans Quoi de neuf sur la guerre.
Oui.
Qui avait 11 ans en 1942 et qui s'était échappé, lui, du Veldiv.
Oui.
Vous nous racontez Marcel et Zozo?
Alors, Marcel, je l'ai très peu connu. Et j'ai appris qu'il s'était suicidé dans le parc d'Andrézy, où il y avait des enfants.
Le château d'Andrézy était un endroit où les enfants étaient accueillis.
Voilà.
Un centre d'accueil d'enfants.
Alors, il y en a beaucoup qui ont dit qu'il s'est suicidé pour d'autres raisons. C'est difficile d'accepter ça, même pour les copains. Qu'on se suicide parce qu'il n'y a plus de parents, parce qu'on ne voit pas, on ne supporte pas la vie. Voilà. Par contre, Zozo, je l'ai bien connu.
Vous l'avez connu à Draveil ?
On l'a connu à Draveil, c'était la première, c'était pas encore en maison d'enfants, c'était donc à la Libération, c'était à la Pentecôte 1945, j'étais quelques jours avant la fin de la guerre. Et on était dans un château qui avait été réquisitionné, que les Allemands avaient occupé. Et on s'est retrouvé une centaine d'enfants. Et on avait tous en commun le fait d'avoir des enfants cachés. On était tous des enfants cachés.
C'est l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide qui avait organisé ce regroupement d'enfants.
Et puis, on se racontait comment on avait caché les uns les autres. Mais on était surtout contents de jouer au ballon, d'être libre, c'était formidable. Et plus rien à voir avec les copains que je retrouvais à l'école. On avait pendant quelques années une autre guerre. Pour eux, c'était terminé. Et il y avait quelque chose qui ne passait plus. Et il y a un garçon, Zozo, qui avait une énergie incroyable. Il était le meilleur au ballon, au ballon prisonnier. Impossible de l'avoir. Il sautait, il se penchait, il avait une véritable énergie. Il nous avait raconté qu'un jour, il avait été arrêté avec ses parents, à la ref du Veldiv, et qu'il s'était sauvé du Veldiv. Et qu'il avait couru du Veldiv jusqu'à chez lui. Il habitait à Belleville. Et dans Quantum sur la guerre, je raconte ça, mais je change l'âge. J'en fais un garçon de 14 ans. Et je dis que ses parents l'ont vu se sauver, et c'est là où je dis que le courage, c'est ça, c'est ne pas regarder son enfant s'enfuir pour lui donner une chance de survie. Et puis, dans le dernier livre, j'ai décidé de raconter le réel, où le réel, c'était l'enfant qui s'était simplement sauvé. Voilà. Et il se trouve que pour ce dernier livre, je raconte le réel. Le réel, c'est que je suis invité à la radio, parler à Salamé, et on parle de ça.
Quand votre dernier livre est sorti en 2023, il y a quand même dans la rue des gens qui passent. Vous avez été invité à France Inter.
C'est ça.
Et après l'émission, vous avez reçu un coup de fil auquel vous ne vous attendiez pas.
C'est que je reçois... Il y a quelqu'un, il y a une dame qui téléphone à un ami à elle, qui lui dit « J'ai écouté une émission où on parle de ton père. » Alors, il s'est demandé ce que c'était. Il s'est renseigné auprès de l'éditeur, à qui il a envoyé un mail, qui m'ont renvoyé, et je lis « Bonjour monsieur, je suis le fils de Zozo. » Et Zozo, c'est quelqu'un, donc ce copain que j'ai perdu de vue quand on avait un peu plus de 20 ans, et qui est mort dans un accident de voiture. Et je n'ai plus du tout entendu parler de lui, puis personne ne parlait de lui, voilà, il y a 70 ans. Et 70 ans après, il y a un monsieur qui me dit, je suis le fils d'Ososo. Et il me dit, j'aimerais bien que vous m'appreniez des choses de mon père. Parce que j'avais 12 ans quand mon père est mort, mon père et ma mère sont morts dans un accident de voiture. Et donc le même âge que Zozo quand ses parents ont été déportés. Alors je l'ai reçu bien sûr avec l'émotion que vous imaginez. Et il ressemblait à Zozo. À Zozo vieux alors que c'était son fils. Alors il m'a appris des choses de son père, mais moi je lui ai aussi appris énormément de choses de son père, qui, on était tous les ans, on se voyait en colonie de vacances. Et il me dit, ce qui est incroyable, c'est que la personne qui m'a téléphoné, elle habite rue de l'Obutokai, là où j'ai passé mon enfance, elle ne sait pas qui j'étais. Donc c'est une chose incroyable. C'est pas, dans un roman, c'est pas crédible. Et d'ailleurs, je raconte ça, c'est que ce n'est pas dans un roman. Voilà, ça ce sont les rencontres, les circonstances qui ne sont jamais le fait du hasard. Je ne crois pas au hasard.
C'est la question que j'allais vous poser. Vous ne croyez pas au hasard?
Je ne crois pas au hasard. Il y a des rencontres. Je vous lirai à un moment donné un petit texte de quelques lignes de Aaron Appelfeld qui dit que...
Vous voulez la chercher, là?
Oui, je peux le trouver. J'ai le texte sous les yeux. Alors voilà ce que dit Appelfeld. Quand on rencontre quelqu'un, c'est signe que l'on devait croiser son chemin, c'est signe que l'on va recevoir de lui quelque chose qui nous manquait. Il ne faut pas ignorer ces rencontres. Dans chacune d'elles est contenue la promesse d'une découverte. Voilà, c'est... Donc je suis complètement... ça. Et toutes ces rencontres que j'ai pu faire tout au long de mon existence, c'était pas une coïncidence. Il y a des gens qu'on rencontre parce qu'on va à certains endroits où on a besoin d'aller, ou d'autres personnes qui nous ressemblent également dans cet endroit, et il y a une rencontre. Et les rencontres ont été pour moi déterminantes. Je n'ai vécu que grâce à ces rencontres.
C'est ce qu'on verra dans l'épisode 3, Robert Bobert, notamment avec une rencontre déterminante, qui est celle de François Truffaut. Merci et à demain.
Merci à vous.
À suivre l'épisode 3 de Harpo à Truffaut. C'était À Voix Nue avec Robert Bobert, réalisation Louise André, prise de son Michael Simon, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.